Vous écoutez, on lit pour vous.
La recette pour l'échec, un texte de Paul Journet, paru le 8 janvier 2024, dans la presse. L'objet n'est pas passé inaperçu à l'Assemblée nationale. On l'a vu dans les mains de Geneviève Guilbeault et de Jonathan Julien, entre autres. Je parle du livre « How Big Things Get Done » de l'universitaire Ben Flivbjerg et du journaliste Dan Gardner. Plusieurs ministres l'ont reçu en cadeau du chef de cabinet de François Legault. Au terme d'une enquête journalistique sophistiquée, j'ai obtenu un exemplaire de ce livre disponible en librairie. En voici le message, car il mérite d'être relayé. La version courte, la vaste majorité des projets sont des échecs et ce n'est pas parce qu'ils déraillent en cours de route, c'est parce qu'ils partent dès le départ dans la mauvaise direction. Résumé ainsi, on pourrait croire à un autre livre de gestion à la mode, mais l'auteur principal, Bent Flivbjerg, ne joue pas au gourou. C'est un géographe économique et chercheur. Depuis 20 ans, il a amassé une banque de données sur plus de 16 000 projets. Ses conclusions sont effrayantes. À peine 8 % d'entre eux respectent le budget et l'échéancier, et seulement 0,5 % le font, tout en se conformant au mandat initial. Par exemple, une ligne de métro avec le nombre prévu de stations. En d'autres mots, sur 200 projets, un seul sera une réussite. La clé, selon les auteurs, être lent dans la planification et rapide dans l'exécution. Or, le contraire est plus fréquent. Un biais d'optimisme incite à sous-estimer les risques, et souvent, la politique aggrave cette tendance. Si des exemples québécois ne vous viennent pas encore en tête, ça ne devrait pas tarder. Pour un politicien, les ponts, stades et autres grands projets peuvent devenir des moyens et non des fins. Ils servent à gagner des votes et des élections. Leur fil d'arrivée est en fait le point de départ, la précieuse photo avec un casque de construction et une pelle avec les dignitaires et les caméras. Mais ces chantiers réduiront-ils la congestion ou permettront-ils d'attirer une équipe professionnelle et ce, à un coût raisonnable? Quand la réponse arrive, ils ne sont plus là pour rendre des comptes. Selon Flivbjerg et Gardner, la question la plus importante devrait être celle du « pourquoi ». Elle devrait être répétée lors de chaque étape. Quel est l'objectif exactement de ce projet? Pour cela, il faut d'abord documenter les besoins et chercher la meilleure façon de les satisfaire. Avec le troisième lien à Québec, l'inverse a été fait. La Chambre de commerce de Lévis a promu un nouvel axe routier avant d'avoir vérifié si c'était techniquement faisable, si ça réduisait la congestion à long terme et si c'était à un prix raisonnable. La politisation des grands projets empêche aussi de les ajuster en cours de route. Les auteurs donnent l'exemple du train léger rapide d'Ottawa. Pour se faire élire en 2010, le maire Jim Watson avait promis de limiter la facture à 2,1 milliards. Pourtant, l'estimation des coûts n'était pas finalisée. Ce plafond a imposé des choix douteux, comme des portes pouvant être bloquées par les usagers. L'exemple d'Ottawa montre aussi le danger de trop segmenter les risques. En principe, cela semble prudent. La ville, le promoteur et ses sous-traitants assument chacun leur rôle. En pratique, ça ne fonctionne pas bien. Au lieu de penser à la finalité du projet, chacun protège ses arrières en transférant le risque aux autres. Sauf qu'à la longue, cette tension entre les partenaires devient nuisible, démontre la base de données de Flevbjerg. Les conflits se judiciarisent et les avocats sont les seuls gagnants, comme on l'a vu notamment avec le SRBP9. Mieux vaut gérer les projets de façon intégrée, et ce, dès le début, soutiennent les auteurs. Comment prévoir et réduire les risques? En tirant les leçons des cas semblables déjà réalisés, répondent les auteurs. Ils distinguent notamment les projets réversibles, comme la conception d'un logiciel, de ceux qui sont irréversibles, comme un pont qu'on ne peut pas effacer et reconstruire au milieu des travaux. Pour la première catégorie, l'audace se justifie mieux, démontre-t-il, sans toutefois reprendre le cliché de Facebook qui se vante d'agir vite et de briser les choses, « move fast and break things ». Pour d'autres, la prudence est de mise. Simuler, tester et retester, disent-ils. Cela contribuerait au succès de l'architecte Franck Gehry, à qui on doit entre autres le musée Guggenheim de Bilbao. Il reproduit des modèles informatiques hyper précis de ses constructions, même si c'est long, afin de minimiser les erreurs. Le studio Pixar est aussi cité en modèle avec ses 20 blockbusters consécutifs. La recette des concepteurs, écrire quelques pages, les montrer à leurs collègues, en débattre en équipe, les corriger, puis reprendre le processus. Le contraire du cliché du génie torturé qui travaille seul dans son coin. Le contre-exemple est l'Opéra de Sydney. Bien qu'elle soit célébrée aujourd'hui, cette œuvre iconique fut un désastre. Elle a coûté 14 fois plus cher que prévu. On a même dû en démolir une partie en cours de route afin de recommencer. Les causes de l'échec sont nombreuses, mais Flevbjerg et Gardner en avancent une qui était prévisible, le sur-mesure. Plus un projet est atypique, plus il est risqué. C'était aussi le cas du stade olympique dont on s'apprête à payer une fois de plus la réfection. Les projets avec le meilleur taux de succès sont modulables. Ils peuvent être divisés en segments qui sont préassemblés ou, du moins, qui ont déjà été fabriqués ailleurs. Une leçon pour la transition énergétique, les énergies solaires et éoliennes s'assemblent ainsi. Cela explique la baisse rapide de leurs coûts dans la dernière décennie, malgré une hausse plus récente à cause de l'inflation. Parmi les 25 catégories de projets étudiés par Flevbjerg, l'éolien et le solaire sont celles qui sont le moins financièrement risquées. Le pire, le nucléaire, où chaque centrale présente des défis particuliers. Cet écueil pourrait être contourné par la nouvelle technologie des réacteurs nucléaires modulaires, disent-ils. La deuxième pire, les Jeux olympiques. Les auteurs ne disent évidemment pas que les projets doivent être abandonnés. Ils plaident simplement pour une analyse plus prudente de leurs risques. Voilà en somme ce qu'on apprend dans « How Big Things Get Done », que des ministres caquistes l'aient lu est une bonne nouvelle. Ce qui sera encore plus encourageant, c'est de voir la preuve concrète qu'ils en auront tiré des leçons. C'était « La recette pour l'échec », un texte de Paul Journet, paru le 8 janvier 2024 dans la presse.
Des virus à l'assaut du cancer. Un texte de Valérie Borde, paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité. Une nouvelle arme dans l'arsenal des traitements contre le cancer s'avère aussi étonnante que prometteuse. Olivier Le Hénaff n'a pas hésité quand, au printemps 2022, son médecin l'a orienté vers une thérapie expérimentale à l'Institut Gustave Roussy, en banlieue de Paris. Contre un mélanome très avancé, c'était cela ou les soins palliatifs, après une opération et l'échec de 3 immunothérapies. L'homme de 61 ans a accepté d'être infecté à répétition par un virus qu'on dit oncolytique parce qu'il peut détruire des cellules cancéreuses. Celui qu'il a reçu, baptisé RPI, n'existe pas dans la nature. Il a été mis au point à Boston par l'entreprise Replimune à partir du virus de l'herpès. Ce traitement est révolutionnaire car il fonctionne différemment de tout ce qu'on connaît contre les cancers, explique la docteure Judith Michel, oncologue à l'Institut Gustave Roussy, qui s'apprête à l'essayer sur 38 femmes souffrant d'un cancer du col de l'utérus métastasé qui n'ont plus d'autres options. À la base, les virus sont des agents infectieux qui doivent entrer dans les cellules d'un hôte et en détourner la machinerie moléculaire pour pouvoir s'y multiplier. Le virus RPI est injecté dans un ganglion ou une métastase et, si tout se passe comme prévu, il pénètre dans les cellules cancéreuses. Sous son influence, celles-ci produisent une substance, un antigène, qui permet au système immunitaire de mieux les repérer. Alertés par cet antigène, les globules blancs sécrètent des anticorps contre les cellules cancéreuses, ce qui les empêche de se multiplier. Après quelques jours, le virus fait aussi exploser les cellules infectées. Il transforme le ganglion ou la métastase en un auto-vaccin contre le cancer produit dans le corps du patient, explique Judith Michel. En 1984, le médecin Nicolas Depasse prend en charge une femme atteinte de cancer du col de l'utérus qui s'est fait mordre par un chien. Il lui administre le vaccin contre la rage qui renferme un virus atténué et constate que sa tumeur régresse. Pendant 5 mois, Olivier Le Hénaff a reçu une injection de virus toutes les 2 semaines dans un ganglion situé dans le ventre. « La procédure dure 1 heure et ça fait mal », raconte-t-il. En parallèle, il a recommencé les perfusions d'immunothérapie qu'il tolère cette fois très bien. Après 2 mois, les médecins ont vu que le ganglion avait rapetissé d'un tiers, signe que des cellules cancéreuses avaient disparu. Et depuis, le cancer ne progresse plus, se réjouit-il. Le Lyonnais a pu retourner rapidement au travail. Tout un contraste avec une des immunothérapies précédentes qui, au lieu de freiner le cancer, l'avait conduit aux soins intensifs à cause de ses effets secondaires. En juin, Replimune a annoncé que parmi les 75 premiers patients atteints de mélanome métastasé qui avaient reçu son virus, 40% avaient répondu au traitement. Et chez 60% de ces derniers, 3 ans après la fin des injections, le cancer n'avait pas repris sa progression. Donner des virus à des cancéreux peut paraître insensé, surtout quand on sait que plusieurs cancers, dont celui du col de l'utérus et certains cancers du foie ou de l'estomac, sont dus à des virus. Mais à l'Institut Gustave Roussy, un des plus importants centres de cancérologie au monde, Les médecins placent beaucoup d'espoir dans cette approche. Ils ne sont pas les seuls. Les études fondamentales se multiplient partout sur la planète et une quarantaine d'entreprises ont commencé à tester des thérapies à base d'adénovirus ou de virus de l'herpès ou de la vaccine, un virus jadis utilisé dans le vaccin contre la variole, modifié. Plus de 100 essais cliniques sur de petits groupes sont actuellement menés. Le Canada, lui, est surtout actif dans la recherche fondamentale et préclinique. À Montréal, Marie-Claude Bourgeois-Daigneau, du CHUM, teste ce traitement notamment sur des souris atteintes d'un cancer du sein avancé. On a un virus qui le fait disparaître chez un individu sur 5, raconte la chercheuse. Une étude clinique pourrait démarrer dans les prochaines années. Les virus représentent un immense espoir, mais cette approche est tellement inhabituelle qu'il va falloir du temps pour bien comprendre comment en maximiser les bénéfices et pour arriver à vaincre les réticences, estime le Dr Howard Kaufman du Massachusetts General Hospital, affilié à l'Université Harvard, qui a récemment publié un bilan des recherches en cours et des défis. L'idée d'utiliser des virus pour traiter des cancers date de plus d'un siècle. En 1904, en Italie, le médecin Nicola De Pace prend en charge une femme atteinte d'un cancer du col de l'utérus qui s'est fait mordre par un chien. Il lui administre le vaccin contre la rage qui renferme un virus atténué et constate que sa tumeur régresse. En 1912, elle est toujours en vie lorsqu'il émet l'hypothèse qu'un virus peut éliminer un cancer. Sauf que généralement, observe le médecin, l'effet est temporaire. À la même époque, l'Allemand Paul Ehrlich jette les bases de la chimiothérapie et Marie Curie peaufine la radiothérapie, lesquelles donnent de bien meilleurs résultats. Ces deux traitements vont prendre toute la place dans les décennies suivantes. Régulièrement, des oncologues affirment que les tumeurs de certains patients régressent après un rhume, une grippe ou un vaccin contenant un virus atténué. Mais les quelques études menées produisent des résultats très variables. Dans les années 1930, des essais avec des virus pathogènes, comme celui de la rougeole, tournent mal. On conclut alors que pour que la virothérapie soit acceptable, elle doit reposer sur des virus inoffensifs. Malgré cela, l'idée de les donner à des gens déjà très malades suscite encore l'inquiétude. Dans les années 1990, des immunologues comme John Bell, de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, commencent à comprendre pourquoi des cellules cancéreuses perdent leur défense contre certains virus et peuvent être infectées sans que les cellules saines soient touchées. Ils testent des milliers de virus et entreprennent d'améliorer les plus prometteurs puisqu'on sait désormais modifier facilement leur génome. En 2005, la Chine autorise un premier adénovirus oncolytique dont on ne connaît pas grand-chose pour combattre les cancers du nasopharynx. Puis, en 2015, le T-VEC de l'entreprise Amgen est approuvé aux États-Unis, en Europe et dans une poignée d'autres pays, mais pas au Canada. Ce virus oncolytique est destiné à des patients atteints de certains mélanomes dont les tumeurs reviennent après avoir été enlevées. Chez 40 % d'entre eux, ils provoquent une réponse assez forte pour maîtriser le cancer pendant au moins 2 ans. Son succès est passé inaperçu car, au même moment, sont apparus les premiers médicaments d'immunothérapie qui s'appuyaient sur plus de recherches et donnaient de meilleurs résultats, raconte Howard Kaufman. Des anticorps monoclonaux comme le pembrolizumab de marque Keytruda, approuvé en 2014, prolonge aujourd'hui la survie de certains malades bien au-delà de ce qu'offrait la classique combinaison opération plus chimio et radiothérapie. En bloquant des récepteurs appelés points de contrôle situés à la surface des globules blancs, ils permettent à ces derniers d'attaquer les cellules cancéreuses qu'ils ont normalement tendance à épargner parce qu'elles ressemblent trop à des cellules saines. Le pembrolizumab a été approuvé jusqu'ici pour le traitement de 16 cancers à des stades bien précis, mais cette molécule ne fonctionne pas pour tout le monde et engendre parfois des effets secondaires très graves. En 2017, un premier médicament de thérapie cellulaire, le Kymriah, a été autorisé contre des cancers du sang. Cette technique consiste à prélever des globules blancs sur les malades et à les modifier génétiquement avant de les leur réinjecter. La création de vaccins thérapeutiques personnalisés contre des cancers a aussi le vent en poupe. Fabriqués à partir des cellules cancéreuses de chaque patient, ces vaccins qui traitent la maladie, au lieu d'avoir un rôle préventif, engendrent énormément d'espoir, même s'ils coûtent les yeux de la tête. On constate cependant que les virus oncolytiques peuvent agir en synergie avec tous ces traitements pour augmenter leur efficacité, puisqu'ils rendent les cellules cancéreuses plus repérables, dit la docteure Judith Michel. Dans son laboratoire de Montréal, Marie-Claude Bourgeois-Daigneau a réussi à éliminer des cancers du sein avancés chez 8 souris sur 10 en couplant son virus à un inhibiteur du point de contrôle, ce qui représente un bien meilleur résultat que ce qu'arrivent à faire les deux séparément. La chercheuse le teste maintenant comme adjuvant dans un vaccin thérapeutique personnalisé. Ses recherches visent aussi à trouver comment le fait de modifier des virus et de les combiner entre eux ou avec d'autres traitements prolonge l'immunité contre le cancer. On comprend mieux les mécanismes moléculaires à l'œuvre, ce qui va nous guider concernant la stratégie à déployer, croit la chercheuse. En 2021, le Japon a autorisé son premier virus oncolytique, le Tezerpaturev, contre des stades avancés du glioblastome, un cancer du cerveau. Fin 2022, la Food and Drug Administration, FDA, américaine, a de son côté accepté l'adstiladrin, un adénovirus modifié, qui constitue la première thérapie génique virale contre un cancer. Le médicament vise certaines tumeurs superficielles de la vessie qui résistent aux autres traitements. À ce stade, la seule autre option consiste à retirer complètement cet organe par une opération massive et délicate. L'adstiladrin n'a pas d'effet oncolytique, mais il transporte un gène humain qui fait sécréter des interférons aux cellules proches de la tumeur pour détruire celle-ci, explique Howard Kaufman. Ces deux virus ont été testés seulement sur quelques dizaines de personnes et ne marchent pas à tous les coups. Mais chez 46% des patients soignés avec l'adstiladrin, le cancer a arrêté de progresser durant au moins un an après le traitement. Le virus fait aussi bien que l'intervention chirurgicale, avec des effets secondaires légers, bénins et de courte durée. Pour l'instant, les virus présentent l'immense avantage d'être bien moins risqués que les autres immunothérapies qui engendrent parfois des réactions graves. Le T-VEC a été utilisé sur des centaines de personnes avec pour seul effet secondaire un syndrome grippal pendant 24 à 48 heures après les injections. Par contre, on ne sait pas encore pourquoi il fonctionne chez certaines et pas d'autres. Souligne Howard Kaufman, qui est persuadé que les nouvelles générations de virus oncolytiques pourraient servir beaucoup plus tôt dans le traitement de certains cancers. Des études montrent qu'ils pourraient même être efficaces comme néo-adjuvants, c'est-à-dire avant qu'on opère les patients, précise l'oncologue Judith Michel. Pour John Bell, tout le défi réside dans la façon d'augmenter la puissance de frappe des virus oncolytiques sans qu'ils soient détruits par le système immunitaire des malades avant d'avoir eu le temps d'agir. De cette manière, on pourrait les donner sans avoir à les injecter directement dans les cellules tumorales. Sa plus récente idée, publiée dans la revue Nature le printemps dernier, consiste à fixer sur le virus une sorte d'interrupteur moléculaire sous la forme d'un médicament courant qu'on peut activer ou bloquer sur commande. Dans les essais in vitro et sur des souris, de multiples thérapies virales fonctionnent très bien et les essais cliniques en cours sont très encourageants, estime le spécialiste. La crainte qu'inspirent encore les virus aux grandes sociétés pharmaceutiques et aux investisseurs est désormais le principal frein à leur développement, selon John Bell. Mais le vent commence à tourner. Les virus présentent l'immense avantage d'être bien moins risqués que les autres immunothérapies, qui engendrent parfois des réactions graves. C'était « Des virus à l'assaut du cancer », un texte de Valérie Borde paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine « L'actualité ».